CPU, car il est petit utile.
Dans cette release de CPU, des droits restreints, des logs analysés, une mise à jour à chaud, hein, on va pas se la jouer, et une racine parano. L'équipe aujourd'hui d'Askritch, notre invité est Ludovic Irilliman, Root Atmosilla, et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis ses logs à page sur silencieux. Non, parce qu'après c'est trop verbeux, c'est le bordel. Allez, c'est parti.
CPU, carré, petit, utile.
Bonjour Ludovic, j'espère que tu vas bien.
Ça va.
Donc on est au Capitole du Libre, on les remercie encore une fois. Il y a un petit peu de monde qui va passer autour, mais ça c'est tout à fait normal. Et en tout cas on s'éclate bien. Et en attendant, bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui télécharges plein de trucs sur internet et qui après se plaint de se retrouver avec plein de malware qui pourrissent ta bécane. Dans internet il y a réseau. Et dans une typologie de réseau, il y a les clients, c'est-à-dire toi, avec ton ordinateur ou ton smartphone, et des serveurs, qui sont d'autres ordinateurs, généralement nichés, dans des data centers. Bon, je schématise, mais commencez pas à me prendre la tête avec des détails, sinon les gamins vont fuir. Tout est dans cette relation client-serveur, et parmi ces serveurs, il y a ceux qui sont totalement accessoires, et des serveurs qui sont vraiment importants. S'ils sont compromis, tout Internet tremble. Par exemple, il y a les serveurs d'infrastructures, comme ceux gérant les noms de domaine, les DNS. Il y a les serveurs de services du type Google. Et il y a les serveurs qui distribuent les logiciels, comme ceux de Microsoft, d'Apple, ou les distributeurs de systèmes Linux. Si un de ces serveurs est compromis, eh ben, ce sont des centaines de millions d'ordinateurs de par le monde qui pourraient être compromis. Et quand, en fait, ben, tu te retrouves à construire un projet qui devient important pour des millions d'utilisateurs, administrer un serveur devient donc une responsabilité qui est bien plus importante que celle du projet qui l'héberge. Il peut faire tomber une infrastructure, tolère le moins de panne possible et demande une bonne rigueur de gestion pour son suivi. Tout le problème est de se rendre compte quand ta responsabilité te dépasse, quand le projet que tu héberges est devenu si important que tu ne peux plus te permettre du tout d'avoir le moins de soucis sur ces serveurs. Et là, il te faut une équipe de durs, de tatoués, d'administrateurs système. Le genre de gus dans un garage à ne pas avoir la main qui tremble quand il faut faire un reboot après une mise à jour à chaud. Le genre de personnes qui te disent « Non, si tu veux installer un serveur d'email là où tu mets aussi ta base de données, ce qui te retourne une claque, ni une ni deux, si tu veux installer le WordPress du petit-neveu sur ton serveur en production. » Oui, l'administrateur système de ton réseau peut sembler dur, mais il est à la racine de la sécurité. C'est pour ça qu'on l'appelle « root ». Et Root peut parfois se montrer gentil, laisser des privilèges et s'occuper de tout le reste, et parfois faire feu de tout bois. Alors oui, normalement, on peut facilement devenir Root sur son ordinateur et donc choisir qui deviendra Root à ta place sur un serveur qui est une relation de confiance qui se noue dans la durée. Vous, derrière, vous noterez d'ailleurs que je n'ai pas utilisé relation BDSM à cette heure-ci. Il y a quand même des enfants qui écoutent, même au fond de la salle. Mais revenons à nos gros serveurs et à nos tests de pénétration. Je suis désolé. Gérer une flotte de serveurs n'est pas si simple, même si nous avons des outils de gestion qui facilitent et qui simplifient la tâche. La virtualisation d'infrastructures sur le cloud, la containerisation d'applications via Docker ou encore les scripts d'administration de flotte tels Ansible. Il y a aussi des gestions de mise à jour, les montées en version logicielle. Tout cela peut être fait d'une manière plus ou moins stable en fonction de l'existant. Et bien évidemment, il y a le rapport risque-bénéfice, l'équilibre subtil où le gain est tellement minime par rapport à l'investissement pour le petit chouïa de sécurité en plus qui peut compromettre l'équilibre du projet qui l'héberge. Enfant du futur immédiat, un root se montre d'un bois solide mais flexible à la fois. C'est lui qui fait l'arbre ne flanche pas complètement quand le sol se dérobe. Et crois-moi qu'une telle situation peut arriver à n'importe quel moment. Il faut tenter de l'éviter et se préparer à être confronté. Déléguer root sur son serveur si important, et ben finalement, c'est s'assurer de meilleures nuits de sommeil. Quaker Calls to God. Quaker qui a sorti cette musique en 96 à la démo party The Party, qui historiquement a lieu en Hollande à la Noël, si je me trompais à l'époque, faisait partie de du démo group Halcyon. Vous écoutez Radio Éphémère, c'est l'émission Carré Petit Utile. Il nous était vraiment important de parler du métier d'administrateur système sur une flotte de serveurs qui parle à bien des gens et dont le plus d'informations possibles soit public. Qui plus est, une organisation impliquant une multitude de services et donc de technologies différentes. Nous avons donc Ludovic Erlimann, Route at Mozilla, QA Lead de Thunderbird, c'est-à-dire que c'est lui qui gère en fait les questions-réponses.
Qui gérait,
qui fut aussi localization manager pour Camino, chevaucheur des plateaux mongols et guerrier aguerri à Warhammer.
Battle.
Parce
que 44, quand même, c'est de la merde.
Parle pas pendant le jingle. Ludovic, justement, donc, tu es un des administrateurs. Il y en a combien, en fait, d'administrateur chez Mozilla pour gérer l'ensemble des serveurs sur l'ensemble de l'organisation et de la société?
Je compte. On doit bien être une trentaine.
Une trentaine, donc il y a une responsabilité réellement partagée et tout ça.
Il y a une équipe qui fait du 24-24 7 jours sur 7, c'est la mienne. Il y a une équipe qui fait de la gestion de projet, qui fait de la migration et qui nous file des bébés. Il y a des équipes qui font la gestion des machines pour les builds. Il y a des équipes qui font la gestion des databases. Donc après, ça dépend de comment tu comptes administrateur de quoi. Sachant que tout est on utilise Puppet en cible au maximum. Et que le passage au cloud, c'est pas encore ça, à mon avis. On arrive bien mieux à gérer notre flotte de serveurs virtuels en interne que le passage à Amazon, par exemple.
D'accord, ok. Quel a été ton parcours, en fait, avant d'arriver chez Mozilla ?
J'étais à la fac, je me suis fait virer de la fac parce que j'avais rien glandé. À l'époque, il fallait faire son service militaire, donc j'ai fait mon service militaire. J'ai servi en Bosnie, c'était marrant. Alors si, à la sortie, j'étais bien motivé, bien vieux, donc j'ai fait un DUT. Et à la sortie de mon DUT, je pensais que c'était la dernière fois que je pourrais m'amuser tranquille, donc j'ai demandé à faire un stage vachement loin. Donc je suis parti en Islande pour 3 ou 4 mois, je ne sais plus. Et puis en revenant, je cherchais du travail, j'ai un pote qui m'a fait faire une interview sur Paris. Je suis rentré chez moi, et puis le gars avec qui j'avais fait l'interview, il l'a filé à son pote qui était en train de monter sa boîte, une SS2I, donc je suis rentré dans la SS2I. J'ai fait du logiciel propriétaire pendant 7 ans sur la gamme Unicenter de Computer Associates. Sur mon temps libre, je faisais du BOS. Et comme je faisais du BOS, je voulais un navigateur bien meilleur que NetPositive. Et donc,
qui était le navigateur qui était fourni par défaut. Hein.
Qui marchait pas sur /dot. Donc voilà. Donc, il y avait Mozilla qui avait relisé son code.
Il faut le vouloir pour ne pas arriver à afficher /dot.
Ouais, c'était un problème. Non, c'est juste une histoire de quand t'as beaucoup de tables, c'est le bordel. Et donc, en fait, comme je voulais avoir un navigateur qui soit dispo, le seul qui était dispo sur toutes les plateformes, c'était
dans le micro.
C'était Mozilla, le seul navigateur qui était. Donc, je l'ai utilisé au travail. Et puis, j'ai gardé l'habitude de l'utiliser. Et puis, en 2003, 2003, j'étais sous macOS. Mozilla, c'était vraiment une grosse daube là-dessus. Et Safari est sorti, mais il y avait Camilo qui avait Chimera Camilo qui était sorti avant, qui était bien mieux. J'ai donné un coup de main là-dedans, je suis resté là-dedans. Ça m'a ouvert les portes pour aller bosser chez Just. C'était une boîte qui faisait de la vidéo sur Internet basée sur Mozilla, qui a foiré. Et à la fin de Just, je me suis retrouvé à aller faire de la qualité pour Thunderbird. Et quand on a arrêté la qualité sur Thunderbird à Mozilla, ben moi je voulais gérer le mail de l'autre côté, donc j'ai demandé à passer dans les équipes d'Admin 6 pour gérer le serveur de mail. Puis en fait, je me suis retrouvé dans l'équipe qui gérait le 24-24. C'était bien et j'y suis depuis 3 ans. 3 ans, ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, bientôt 4.
Donc on va rappeler un peu rapidement que ce que fait Mozilla, les structures et le logiciel. Mozilla, c'est pas que Firefox, on a parlé un petit peu de Thunderbird. Derrière, il y a pas mal de logiciels, pas mal de projets et pas mal de serveurs.
Alors en fait, si tu regardes bien, Mozilla aujourd'hui, ça fait. Ça fait un certain nombre de produits. Donc, le premier produit, c'est NSS-NSPR. C'est comme la couche ARP ou APR de chez Apache. C'est une couche multi-OS. C'est une API de base pour faire des choses au-dessus du système.
C'est l'abstraction.
Ouais, c'est l'abstraction. Mmh. Ensuite, on a une pile de sécurité pour faire du SSL, du TLS et tutti quanti. Alors, elle est vieille, elle est un peu machin. Elle est utilisée que dans les clients, malheureusement. De nos jours, avant, elle était utilisée dans les serveurs web de Netscape. Et il y a un mode NSS, mais il n'est pas très maintenu. Mais on est en train d'y travailler parce qu'on s'est réalisé. On a quand même réalisé avec les derniers incidents qu'il y avait eu sur OpenSSL que c'était bien d'avoir plus qu'une seule pile. En GNU TLS et OpenSSL, c'était pas assez. Donc on va pousser un peu NSS là-dessus. Sur ça, on a Firefox. Donc, qui est redevenu le cœur de notre métier. Firefox qu'on décline sur desktop, sur tous les OS, les trois grands OS du desktop, c'est-à-dire Windows, Mac et puis Linux. Et on est aussi disponible sur iOS et sur Android en portable, en mobile. Et pour pallier le fait que sur des écrans mobiles, de temps en temps, ça marche pas bien, on a un truc qui s'appelle Firefox Account qui permet de faire de la synchronisation entre les tabs, entre les pages ouvertes sur les mobiles et sur le desktop. Comme ça, on est dans le train, on trouve un truc qui nous intéresse, on le synchronise, on arrive à la maison sur son desktop, on le regarde. À côté de ça, est-ce qu'on a d'autres services ? On doit bien avoir d'autres services, mais qu'ils soient grand public et bien utilisés, je vois pas. On a à un moment mis en place des outils pour éduquer les gens qui voulaient découvrir Internet. C'est des webmakers, Popcorn, qui permettaient de faire rapidement des sites web. Mais on a arrêté de faire ça. À un moment, on s'est aussi dit que l'avenir, c'était sur mobile. Donc autant avoir une couche complètement à nous sur mobile. On a eu un projet qui s'appelait Firefox OS pendant 3 ou 4 ans. Où l'idée, c'était d'avoir une pile, on prenait Android et par-dessus, on faisait tout en HTML.
C'était même pas Android, c'était Linux. C'était
de l'Android, non, c'était de l'Android. GONG, c'était de l'Android. Et par-dessus, à partir du moment où on arrivait à la couche applicative, c'était plus que du HTML et du CSS. Malheureusement, on a arrêté parce que c'était dur de gérer notre développement avec la vision qu'on voulait libératrice du web et les partenaires qu'on avait. Donc les partenaires, c'était les partenaires pour faire la vente de téléphone et de la vente de services, et des partenaires qui faisaient le hardware, qui voulaient pas forcément nous donner les drivers pour certaines parties des téléphones. Et donc après 3 ans, où on a expérimenté plein de choses, on a expérimenté des téléphones pas chers du tout, on a essayé de se reconcentrer pour avoir une dernière release qui serait super bien. On n'a pas réussi, donc on a dit on va arrêter les frais, parce qu'en même temps, dans le même temps, il y avait une part de marché sur le navigateur qui baissait puisqu'on était concentré sur ce téléphone. Alors le problème, c'est que quand les parts de marché elles baissent sur le navigateur, tu te retrouves dans une situation où on se retrouve comme en 2006 avec tous les sites qui ne marchent que sous IE6. Alors aujourd'hui, le problème, c'est plus IE6, le problème, c'est Chrome, où les développeurs ne font attention qu'à Chrome, puisque Chrome a 50% de part de marché.
60% actuellement.
Beaucoup. Donc ils ont un gros pourcentage de part de marché, donc ils s'embêtent pas, ils font Chrome, ils font IE, Et après, il reste plus rien pour les autres. Or, ça pose un problème puisque du jour au lendemain, Google peut dire bah, j'arrête Chrome sur Linux. Voilà, il y a toujours Chromium, mais dans Chromium, il manque des choses. Donc les gens qui ont
déjà qui manquent des trucs dans Chrome.
Voilà. Donc, c'est c'est une histoire de choix. Le jour où Google dit on fait plus que Chrome sur Chrome OS et qu'il y a 80%, les gens vont être forcés de passer à Chrome OS. Donc en fait, à Mozilla, le truc qu'on fait depuis longtemps, plus ou moins par hasard, c'est qu'on défend la liberté de choix, les choix personnels qu'on peut avoir pour accéder à Internet. Même si aujourd'hui on est concentré que sur le web, c'est ça notre cœur de métier. Nous, ce qu'on essaye, donc maintenant qu'on a arrêté Firefox OS, ça fait un an et demi maintenant qu'on travaille la qualité de Firefox pour que Firefox redevienne au moins à égalité avec Chrome en termes de perf, en termes de facilité d'utilisation. On est en train d'y arriver. Mmh. Et il y a même certains trucs sur lesquels on est meilleur. Aujourd'hui, on consomme moins de mémoire que Chrome. Bon, par contre, on commence à avoir des problèmes de compatibilité parce qu'on n'a pas assez d'utilisateurs. L'autre problème qu'on a, c'est que dans les 2-3 dernières années, on a perdu la moitié de nos utilisateurs sur Nightly. Nightly, c'est la version de développement. Donc c'est la version avec laquelle on va construire la qualité du produit. Même si après, on a une alpha, on a des bêta, et que l'alpha, ça dure 6 semaines, la bêta, ça dure 6 semaines. Le développeur, lui, quand on lui rapporte le bug, ça marche bien quand on le rapporte juste après qu'il ait fait son commit, jusqu'après qu'il ait changé la recette. Il change la recette, puis après il pense à autre chose. Donc quand on lui dit qu'il faut qu'il se souvienne de machin, c'est dur. Par contre, si on lui dit tout de suite, voilà, et pour dire tout de suite, il faut essayer les recettes tous les jours. Donc il y a un truc qui s'appelle Nightly, c'est un assemblage des recettes tous les jours, et tous les jours on peut utiliser ce truc-là. Donc moi, c'est ça qu'on essaye en ce moment de faire, et c'est pour ça que je suis venu au Capital Libre. C'est pour convaincre les gens qui ont un petit background technique de prendre le temps de se dire bah ouais, je veux que dans 20 ans on puisse toujours choisir ce qu'on veut et comment on accède à Internet, et que c'est pas Facebook ou Google ou Amazon qui me disent c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est nous qui maîtrisons 90% du marché. Donc j'essaie de convaincre les gens qui ont un petit background technique d'utiliser Nightly et de faire des rapports de bugs sur Nightly, tout en leur rappelant que comme ils sont certainement les référents informatiques dans leur famille puisqu'ils sont techniques, ils ont une mission pédagogique d'expliquer à leur famille que en fait bref, c'est pas parce que Nvidia leur force l'install de Chrome qu'ils sont obligés d'utiliser Chrome pour accéder à Internet, et que Firefox ça marche toujours aussi bien. On essaye toujours d'être aussi libre et indépendant. Et je crois qu'on y arrive à peu près. Bon, on n'arrive pas à tout faire toujours correctement comme on devrait faire, mais je crois que on délivre en termes de liberté en termes de tracking, en termes de comment vous êtes épié sur Internet, on essaie de livrer une expérience optimum pour l'utilisateur. Sans que celui-ci soit tout de suite vendu, sans s'en rendre compte.
Alors, on va parler justement d'abord des serveurs qu'il y a chez Mozilla. Il y a vraiment de tout comme serveur. Donc, il y a les serveurs pour gérer les codes, les serveurs pour gérer les rapports d'erreurs, ce qu'on appelle Bugzilla. Ouais. Il y a évidemment les serveurs qui distribuent, en fait.
Non, ça, il n'y a plus. Donc, en fait, il y a 4 ans, la distribution, elle se faisait d'une manière plus ouverte. On avait un serveur maître et on avait tout un tas d'universités qui nous servaient de miroir. Donc ça, c'était bien, ça ne nous coûtait rien. Mais en termes de delivery, alors je ne sais pas comment on dit en français, en termes de delivery...
De livraison, oui.
Ouais, c'était pas ça. Donc on a fait comme tous les grands, on utilise 3 CDN, des Content Delivery Network. Donc ça, c'est des sociétés qui ont des serveurs à peu près chez tous les fournisseurs d'accès à Internet.
Et donc, ils servent de proxy.
Et donc, en fait, c'est très rapide. Et donc, quand il y a 80 mégas téléchargés pour faire une update, eh ben, ça prend 2 secondes et ça prend pas 3 heures. Et donc, l'utilisateur, il a son update. Et ce qui est important, puisque les updates sont généralement, des améliorations de sécurité. Donc, voilà. Donc, ça, on a fait. Donc, ça, on fait plus. Par contre, on fait toujours les builds sur Windows, sous Linux, sous Mac.
Donc, ça veut dire autant de serveurs pour faire les tests et ça pour construire?
Ça veut dire 7 ou 8 000 serveurs.
Ouf. Ah ouais.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 7 ou 8 000 serveurs, les vrais serveurs physiques, c'est les Mac, parce qu'on ne peut pas les virtualiser. Le reste, c'est de l'Amazon. Donc en fait, ça se spawn quand on en a besoin.
On les invoque. Voilà.
À un moment, on se retrouvait avec 2 millions de dollars par mois de facture Amazon.
Voilà. Ouais, ouais. Et ça va vite avec Amazon. Hein,
ça va très vite, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus facile à gérer quand tu as 5 développeurs qui font des commits, il faut faire 2 ou 3 000 tests par. Je crois que c'est plus que ça en plus. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, il faut suivre. Et donc, à un moment, il faut pouvoir grandir. Et ça, Amazon est très bien pour ça. Amazon n'est pas très bien pour tout. Hein. Moi, je ne suis pas fan d'Amazon puisqu'on ne contrôle plus quand on est chez Amazon, alors que quand on est dans un data center, on contrôle tout. Donc, on a quand même des choses en data center. On a de bases de données. On collecte des informations. Alors, voilà.
Par exemple, si on prend la gestion des plugins et des add-ons qui viennent de la communauté et tout ça. Ouais. Donc, il y a des serveurs qui reçoivent les add-ons qu'on veut rajouter. Moi, je suis auteur d'un add-on pour essayer.
C'est passé.
Il y a la partie documentation. Il y a énormément de serveurs qui sont dédiés à ça. Il y a les serveurs qui sont faits justement à l'interface. Il y a les serveurs pour tester ces add-ons. Et après, justement, il y a toute la livraison des add-ons. Ouais. Plus à côté, donc il y a les serveurs comme Mozilla Developer Network, les blogs et tout le reste.
On fait aussi...
C'est une typologie qui est extrêmement large.
Hein. Oui, on fait aussi du data warehousing pour savoir qui sont nos utilisateurs. Alors, voilà, on est très contradictoire. on est contre la collecte des données, mais on collecte nous aussi des données. Et ces données, elles servent à améliorer le produit principalement. Mais il faut stocker, il faut analyser. Oui, donc on a eu jusqu'à 3 bases Hadoop. On n'en a plus qu'une. Donc il y a des choses qui restent en interne et d'autres qui sont externalisables. Donc elles sont externalisables. Et la gestion de l'infrastructure, ça se fait toujours en interne. On n'a pas tout mis chez Amazon encore.
Donc, on a parlé de Hadoop. Je crois que c'est Mercurial sur lequel est le code source. Donc, c'est des projets qui sont relativement vieux, hein, quand même.
Ouais, et puis on a...
Il n'y a pas eu une volonté de migrer.
Il y a des gens qui utilisent Git. Donc, il y a une copie du repo Mozilla sur GitHub.
Là, on parle des outils, justement, de gestion des mises à jeu, de versions concurrentielles, ce qui permet à plusieurs développeurs de travailler sur le même fichier.
Il y a même un gars qui a créé un plugin pour AG, qui s'appelle Git Cinnabar, qui s'appelle Git Cinnabar, qui permet de faire la gestion tu fais tout en Git, et puis ça transforme en AG, et ça finit dans AG correctement. C'est un Français qui habite au Japon. Salut, Glandium.
Ah, putain, c'est lui.
Ouais.
Hein, on était colocataire de serveur à un moment, donc.
Voilà. Ouais, on a ça. On a aussi des projets qu'on commence en interne et qu'on veut cacher parce que on sait pas si on va les finir ou pas. C'est pas toujours cool, mais on le fait. Donc voilà. De nos jours, on utilise de moins en moins SG. On a fini par enlever CVS. SVN, on est en train de l'enlever. Donc SVN, il servait à gérer le site web et à gérer notre infrastructure. Il ne sert plus à gérer notre infrastructure. Enfin, une partie de l'infrastructure n'est plus gérée dans SVN, elle est gérée dans Git, mais d'un Git interne. C'est pas un Git accessible à tout le monde. Et puis voilà,
on va parler tout à l'heure justement des notions de sécurité et tout le reste. On va marquer une pause justement. On va parler justement des outils qui aident à gérer justement l'ensemble des serveurs et justement de la notion de sécurité et tout le reste. On fait une pause un petit peu brutale. Hein, je suis désolé.
Mais oui, c'est pas grave. C'est toi qui gères le temps. Je parle beaucoup. Non, je suis désolé.
Mais je connais ce que c'est qu'un admin système. Il aime les trucs qui arrachent et qui réveillent un petit peu la nuit quand on est à fixer les logs de ces serveurs.
C'est moi qui réveille les autres. Ça va.
Spooky. I'm the guide of the lost. I'm the guide of the lost. Yeah. find the trusting friend you need. You're the open book I read.
De K2 Soul Manager, la version live originellement sortie dans l'album Tyranny for You, c'était en 91. Et là, c'était extrait de l'album live Reboot en 98. Et c'était déjà plus la formation d'origine. Vous êtes sur Radio FMR et vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile avec Ludovic Erilman qui est Route at Mozilla. Alors ça tombe bien parce que si tu savais, on a besoin de gérer les serveurs de la radio, donc peut-être que tu peux nous donner un coup de main. Je suppose qu'il y a un petit peu de tout comme type de service qui doit tourner sur les serveurs, donc il y a du Bugzilla, du FTP, des repos, et tu nous disais en fait que vous avez vos propres serveurs. Ça se passe comment? C'est Mozilla, ce propre data center, ou non. Lui du data center?
Non.
Est-ce qu'il y a du routeur, des trucs comme ça à gérer?
On est un AS indépendant.
D'accord. Donc, alors, attention. AS, ça veut dire que c'est vous êtes une autorité de routage, quoi, sur Internet.
Ouais. Donc, on a.
Il n'y en a pas beaucoup, hein.
Tous les fournisseurs d'accès Internet sont des AS indépendants. Donc.
Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de boîtes derrière qui le sont. C'est quand même pas mal.
Je sais pas, moi, la boîte dans laquelle j'étais avant, elle était aussi. Donc, je sais pas ça me choque pas. On a deux points de présence aux États-Unis. C'est là qu'on a notre trafic qui rentre. Le trafic qui rentre dans ces deux points va dans nos data centers et dans, je vais pas dire plus parce qu'en fait, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. En gros, avant, on avait deux data centers, un à Phoenix, un à Santa Clara. On en a plus qu'un à Santa Clara. Et avant ça, on en avait trois à San José. Et ceux qui étaient à San José ont été rapatriés dans celui de Santa Clara. Donc, Santa Clara, on a un gros data center. On est dans un gros data center. On est juste à côté de box.com, par exemple. Donc il y a une grande grille entre de l'autre côté, c'est les gens de Boss.com, il y a des anciens chez nous, donc on peut dire bonjour. Donc là-dedans il y a toute notre architecture de cœur de réseau, des routeurs en mode résilience pour pas que ça pète. Des fois ça pète quand même. On a un ou deux filers pour pour nos points de montage NFS, et on a des machines. Donc on a des machines physiques, et puis
Filer, donc c'est l'équivalent d'un immense disque dur, donc qui est accessible en NFS. Partagé, donc pour d'autres machines.
Ouais. On a un cluster pour faire tourner de je sais pas combien de machines pour faire tourner nos VM.
D'accord.
Donc ça marche bien. Et puis voilà. Avant, on avait des lecteurs de bandes, on ne les a plus.
Ah ouais, carrément.
Ouais.
Ça, il date de quand ?
Lecteur de pour les sauvegardes, tu sais. Les sauvegardes, c'est toujours très con. Hein. On fait une sauvegarde.
Il y a des gens qui font des sauvegardes. Moi, je pense jamais à les faire.
Ben ouais, il y a des gens qui font des sauvegardes. Et donc, en fait, de nos jours, on utilise S3. Parce que S3, tout de suite, quand tu regardes, ça n'a pas l'air cher.
S3, donc, c'est le service d'Amazon pour mettre du fichier en statique. C'est bien, c'est pas cher parce que c'est la NSA qui paie.
C'est pas cher, mais.
Qui paie des disques durs.
Mais au bout d'un moment, quand tu as beaucoup de volume, ça commence à coûter.
C'est quand il y a beaucoup de requêtes que ça commence à coûter.
Ouais, mais même quand tu as beaucoup de volume, ça commence à coûter, même quand il n'y a plus de requêtes. Donc, à un moment, on va se rendre compte que ça nous coûte sans doute peut-être plus cher que des bandes, mais au moins, c'est plus rapide que les bandes. Et plus fiable, quelque part. Parce que les lecteurs de bandes, ils étaient un peu vieux, c'était le bordel.
Ouais, sinon, tu vois, aussi, ils proposent du glacier, ce qui veut bien dire que, oula, ça va geler, c'est au frais. Pour gérer l'ensemble de cette faute, donc il y a des serveurs qui sont à vous, vous gérez vous. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des mecs qui mettent les mains dans les cambouis ou dans les circuits imprimés.
On peut pas. Alors ouais, on a des machines physiques. Les machines physiques, elles commencent à être. On est en train de rafraîchir un peu notre flotte. C'est monomarque. C'est plus facile à gérer. Il n'y a qu'une seule marque. On peut trouver les drivers, on peut trouver les machins, on peut faire les installs, c'est plus facile. En termes d'OS, on est Red Hat CentOS Ubuntu. Ubuntu parce qu'on a besoin de faire certaines choses sur Debian avec des outils qui sont plus compliqués à trouver sur Red Hat, puisque Red Hat Fedora, c'est à la tête du progrès. Et Red Hat,
on parle de distribution Linux, oui, voilà.
Et donc Fedora, c'est à la tête du progrès en termes de tout ce qu'on veut. Par contre, Red Hat Linux, c'est un peu vieux parce que c'est stable, c'est testé par Fedora, c'est testé par CentOS avant d'arriver à Red Hat. Et donc nous, on a du Red Hat, on a du CentOS et du Ubuntu. Et le Ubuntu, c'est pour faire des trucs avec la dernière version de Python, des trucs comme ça.
Donc, mais tu veux dire la 3.4 ou la 2.7 ?
Voilà.
2.6, pardon.
Des conneries comme ça, j'aime pas Python. Donc,
on va pas s'entendre.
On automatise un maximum de choses.
D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure justement d'Ansible. Ansible permet justement d'automatiser. C'est un langage de description. Hein,
ouais. Donc, en fait, nous, on utilise. Alors, on utilise Ansible pour tout ce qui est stack réseau.
Donc, alors gestion en fait de l'ensemble.
La gestion des firewalls, la gestion des VLAN, la gestion de ces choses-là. Par contre, pour tout ce qui est pour certains applicatifs, on utilise Chef. Pour certains applicatifs, on utilise Ansible. Pour tout ce qui est stack infrastructure des machines, c'est Puppet.
D'accord. Donc, il faut arriver à coordonner quand même trois types d'outils qui sont complètement différents et coordonner en même temps les administrateurs.
Mais ce n'est pas les mêmes personnes qui gèrent. T'as un groupe de pool de personnes qui gèrent tout ce qui est infra-technique. Et puis après, t'as un autre pool de personnes qui gèrent tout ce qui est infra-application. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes outils. Donc il y a les DBA, ils utilisent Puppet. Et la plupart des gens utilisent Puppet, mais pour certains applicatifs, Puppet, c'est le bordel à gérer, donc c'est plus facile de le faire en Ansible, donc c'est fait en Ansible. Parce que le gars qui gère, ça lui plaisait d'apprendre Ansible, donc il fait.
Ça veut dire donc qu'il y a des personnes qui sont bilingues, je vais dire, entre les deux types de solutions, qui savent les gérer.
En fait, c'est pas très dur à lire. Hein. C'est tout dans un repo, il suffit de lire, et puis quand on comprend pas, on demande à la personne qui a écrit si elle est encore là. On apprend, on fait le changement qui va bien, et puis voilà.
Il y a de la documentation systématiquement, ou des fois faut tout reprendre?
Je dirais pas systématiquement, mais on a de la documentation. La documentation, c'est dans un Confluence.
D'accord.
Donc c'est un wiki, donc c'est facile à éditer, c'est facile à maintenir,
c'est facile. Confluence, c'est un outil de connaissance, qui est édité par Jira, qui est spécialisé dans la gestion, je vais dire de processus au sein d'une entreprise. Ouais.
Donc en fait c'est un wiki, donc c'est facile à mettre à jour. ça n'empêche pas qu'on a des pages qui sont pas à jour, qu'on a des trucs qu'on sait plus, que ça n'empêche pas qu'on n'est pas tout, quoi. C'est comme partout, c'est très humain. Les humains, ils sont incapables de finir les choses proprement ou d'aller jusqu'au bout des choses pour plein de choses. Donc, on est à l'image de l'être humain. Il y a des trucs c'est bien et des trucs c'est pas bien.
Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'ose pas documenter parce que justement là on est dans l'archi sensible ?
Pas à ma connaissance.
Donc quand même, il y a des trucs qui sont bien documentés, etc.
Mais en archi sensible, il n'y a pas grand chose en archi sensible. En archi sensible, ce qui est sensible chez nous, c'est le processus de build et les clés de signature à la fin du build. C'est juste l'endroit où tu ranges les clés.
D'accord.
Donc qui a accès aux clés ?
Les builds, donc, c'est-à-dire le fichier firefox.exe, ouais, ouais. Et la clé, c'est ce qui permet de dire oui, ce fichier vient bien de chez nous.
Voilà. Donc c'est ça qui est sensible chez nous. Ce qui est sensible, c'est la clé et les fichiers à partir de, et la recette à partir duquel on gère Firefox. Donc c'est le repos et le machin à la fin.
Alors, est-ce qu'il y a des réunions secrètes entre les root at Mozilla et les autres root at, au hasard, Linux Foundation, Red Hat, LibreOffice, Google, Apple, Microsoft
Non, c'est pas secret.
Il n'y a pas de complot mondial, mais... Non, Ludovic, quoi. Imagine, j'ai quand même une audience complotiste.
Eh ben, c'est pas grave.
Il y a vraiment rien.
Si, il y a un truc qui s'appelle FOSDEM, il y a un truc qui s'appelle Capitole du Libre. C'est à ces moments-là qu'on se rencontre et qu'on échange... Ou des brown bag lunch où on échange ce qui se passe et comment ça se passe.
Mais il y a des les échanges se font quand même. C'est-à-dire il y a des équipes vont se rencontrer les unes les autres.
Pas forcément, mais il y a des échanges
avec
par
une
mail.
Partie de football ou.
Non. Il y a plus des parties. C'est plus. Il y a des mails qui circulent. Tiens, on s'est fait hacker par là. Pouf, il y a un gros trou de sécurité là. Faut le changer. Mais c'est pas c'est pas complotiste. C'est pas franc-maçonniste. C'est ouvert, c'est visible. Ce qui est pas visible, c'est quand le vendeur de cacahuètes trouve que la moitié de ses cacahuètes sont grillées et le dit aux autres. Il le dit aux autres pour que les autres ils aient le temps d'enlever les cacahuètes grillées avant que ce soit connu tout le monde, mais ça arrive pas tout le temps.
Si je me trompe, en tant que root at Mozilla, tu es quand même humain.
Ouais.
Donc ça veut dire que tu es corruptible. Chocolat, bière, whisky, cigare, la coque, les putes. Alors vous voyez pas parce que vous n'avez pas payé à redevance couleur, mais il est en train de faire un sourire et il dit mais vers où il est allé.
Non, pas du tout. C'était les putes, ça dépend de nombre. voilà. Non, j'aime trop ce que fait la boîte pour laquelle je bosse pour être corruptible à ce niveau-là. Donc non. Ouais, j'aurais tendance à faire des erreurs, mais elles ne sont pas voulues.
D'accord. Vous écoutez Radio FMR, c'est l'émission Carré Petit Utile. On fait une petite pause musicale, le temps qu'ils me disent des choses vraiment compromettantes. Dan, K-Master, extrait de l'album Angyaku Seimei, et qui était sorti en 2012. Et d'ailleurs, je crois pas qu'il y a de nouvel album d'ici là. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Ludovic Erlimann, qui est Root at Mozilla, pour expliquer justement le métier d'administrateur système sur les serveurs très, très, très fréquentés.
Super, t'as dit mon nom correctement la troisième fois.
Ouais, c'est pas la première fois qu'on me dit que je suis une que j'ai sort.
Allez, continue, te laisse pas déconcentrer par mes conneries.
On parlait justement de documentation. Et on parlait aussi d'échanges à propos de il y a une petite couille dans la cacahuète et tout. Alors, comment cela se passe pour une faille de sécurité? Déjà, est-ce qu'on commence à la documenter sur justement la base de documentation interne? Tu trouves une faille de sécurité, comment on fait?
Ben, c'est pas mon travail déjà. C'est pas mon équipe qui fait ça. Il y a une équipe à part qui fait que ça.
Ouais, mais tu peux la trouver par hasard.
J'ai pas le temps. Je suis vraiment pas le
j'ai
temps.
J'ai pas le temps. Je suis mon esprit.
Donc en fait, c'est l'équipe de sécurité qui va les trouver pour nous. Mm-hmm. Une fois qu'ils ont trouvé, ils ouvrent un bug.
D'accord. Et donc il y a la police, toi, et il y a la police des polices.
Ouais.
D'autres. Et comment ça se passe dans ce cas-là, justement, à partir de là?
Comment ça se passe? En fait, on se prend un bug. Voilà, faut agir. Et puis si on n'agit pas assez vite, on se fait tirer les oreilles. Et si on se fait tirer les oreilles, le chef il est pas content, le chef il gueule. Comment on n'aime pas se faire engueuler? On essaye d'aller assez vite.
D'accord.
Des fois, on n'a pas de solution. Mmh. Quand on n'a pas de solution, on se débrouille pour aller voir ailleurs s'il y a des solutions ailleurs. Et des fois, faut qu'on fasse la solution nous-mêmes.
D'accord.
Comme on fait pour Firefox, il y a des trous de sécurité dans Firefox, on les fixe. La okay, différence est que c'est veut... plus facile de gérer Firefox, qui est moins complexe que nos systèmes à nous.
Ça veut dire que si je te pose la question, comment tester la sécurité des serveurs, c'est même pas votre rôle à partir de là, ou ça veut dire qu'il y a...
Je peux te répondre, mais c'est pas une expérience directe. Il y a des outils pour ça.
Oui.
Tu utilises les outils. Bon, déjà, la première chose que tu fais, c'est que tu regardes si tu es à jour en termes de package sur tes serveurs. C'est pour ça que c'est bien les packages, pour ça. Tu sais lesquels sont à jour, lesquels posent un problème de sécurité. Donc, tu mets ça à jour. Une fois que tu as ça à jour, il y a quelque chose qui s'appelle du pen testing. Il y a des outils pour ça. Il y a des gens qui savent utiliser les outils. Ils font ça. Et puis après, ils viennent nous voir. Ils nous disent, les gars, vous rigolez. C'est un gruyère, ce truc-là. Il faut fixer ça, 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 ça et ça. Et puis nous, on fixe.
Et actuellement, la situation, elle est maîtrisée, elle est saine, ou il y a du boulot, on recrute.
Si je te répondrais, il faudrait que je te tue après.
Oh putain. Ça veut dire donc, quand même.
Ça veut dire que je peux pas répondre.
Non, mais ça, ok. Mais Mozilla étant un truc qui est relativement sensible, ça veut dire quand même que. C'est une cible qui est assez demandée pour tout ce qui est piratage, aussi bien le piratage d'occasion que le piratage d'État.
On est une cible
permanente.
On est une cible permanente à la hauteur de ce qu'on représente. Est-ce qu'on est plus une cible que Google? Je pense que non. Est-ce qu'on est plus une cible que Microsoft? Je pense que non. Est-ce qu'on est plus une cible qu'Amazon? J'en sais rien. Certainement non, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infra. Est-ce qu'on est... Mais on est une cible, oui, parce que on est une cible parce qu'à partir du moment où tu prends la main chez nous, tu peux maîtriser Firefox, tu peux distribuer Firefox qui fait n'importe quoi avec des utilisateurs qui nous croient. Donc on fait attention à ça. Donc on fait attention. Ce qui compte, c'est qu'au final, l'utilisateur se retrouve pas à avoir installé un malware sur sa machine parce qu'on s'est fait hacker et qu'il y a eu une faille dans Firefox à cause de ça.
Ou qu'il a téléchargé sur 01 logiciel ou un truc comme ça.
Oui.
Ça veut dire quand même que vous avez des relations privilégiées avec certains gestionnaires de serveurs, notamment je pense à Amazon. Ça veut dire que vous avez des lignes directes ou vous êtes comme tous les clients?
Non, on est. Alors on utilise des services de Google, on utilise des services de Amazon et on n'a pas de ligne plus directe que toi tu n'en aurais. La différence...
Même contre du chocolat, du whisky,
La différence étant, c'est si toi tu as 3 serveurs et que nous on en a 300, ils vont être plus réactifs sur les 300 serveurs que sur 3 serveurs. Mmh. Voilà, c'est ça, c'est le volume qui va faire la différence pour Amazon par exemple. Pareil chez Google, c'est le volume. Si tu as beaucoup de volume, tu vas être servi avant ceux qui ont peu de volume.
Et toi ton travail finalement, c'est de la config ou de lire les logs ou les deux?
C'est de faire de la réponse d'incident.
Alors, donc, dans ce cas-là, tu vois les attaques, quelles sont les attaques que tu vois les plus souvent, ou les incidents les plus fréquents?
Les incidents les plus fréquents, c'est un disque qui est plein, c'est une machine qui reboot, on ne sait pas pourquoi, c'est un VPN qui tombe, c'est des problèmes de blip réseau, c'est c'est ça, les problèmes les plus souvent qu'on a, c'est un spike de CPU sur une machine, c'est pas normal. Ou tiens, Bugzilla, il est plus accessible, allons voir ce qui se passe. Ah tiens, c'est un connard qui nous spamme. Ou c'est un connard qui nous suce. Donc on le bloque. Mmh. C'est ça, les problèmes les plus fréquents qu'on a. De temps en temps, t'as un data center qui tombe.
Et l'une des attaques les plus utilisées, parce que les plus simples et celles qui font le plus de dégâts, c'est les attaques en DDoS. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Comment vous faites pour justement les gérer?
Techniquement, je sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai une interface sympa. J'entre les adresses IP qui nous DOS, pam, ça tombe.
C'est des millions de personnes qui se sont fait verrouiller leur PC.
Quand ça arrive, ce qui se passe, c'est que ça se gère au niveau des tables de routage. Donc, en fait, ça se gère avec nos providers de bande passante. Donc, on les appelle, on leur dit « Wouah, 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 wouah ». Et eux, ils font ce qu'ils font au niveau de leurs équipements pour plus que ça arrive chez nous.
Alors que quand même, ils auraient intérêt à faire payer le trafic en trop. Et justement, il y a un consensus de ce côté-là auprès de tout le monde.
Ils ne peuvent pas.
Ils peuvent pas.
Parce que sinon, tu changes de provider.
Forcément. Est-ce que... Alors là, je sais, on ouvre un chapitre qui est difficile psychologiquement et vis-à-vis de ses collègues. Est-ce que des fois, il y a des gueulantes sur les scripts qui sont installés par des développeurs ou par des collègues?
Alors, par des développeurs, non, il n'y a pas de gueulante là-dessus. On gueule pas. Nous, quand ils nous fournissent de la merde, on leur dit corriger. Non, on n'est pas conflictuel là-dessus. On va être conflictuel sur le fait que j'en ai marre d'être réveillé Le gars, on va le réveiller 4 fois dans la semaine à 4h du matin. Il va en avoir marre, donc il va se sortir les doigts, il va faire ce qu'il faut pour pas se faire réveiller le cinquième jour.
Est-ce que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle technologie ou un besoin qui est identifié, comment ça s'installer, quelles sont les procédures en fait qui il y a vraiment des procédures qui sont prévues du qualifiant ou c'est YOLO?
Ça dépend. Mais c'est beaucoup de YOLO.
Ah ouais, à ce point.
Ce qui veut dire que c'est de la merde à gérer après.
D'accord, donc on y va et on voit
YOLO,
ce qui se passe.
Le YOLO, c'est bien parce que c'est rapide. On n'est pas une banque, on n'est pas une grosse boîte qui a 50...
Et puis il y a beaucoup de développeurs bénévoles, donc il ne faut pas les frustrer.
Il y a 50, non, il n'y a pas beaucoup pour ça. Mais on n'a pas 50 ans de production. La production qu'on fait, elle n'est pas vraiment sur nos sites web. Donc on peut faire du YOLO. La production qu'on fait, c'est un produit téléchargeable à la fin. Donc c'est plus là qu'on fait pas les YOLO. Sur les services web, on fait YOLO, puis après, on réalise que merde, on a merdé et on essaye de maintenir. Mais on fait, de temps en temps, on y pense. Voilà, il y a des trucs. Donc là, pour certains trucs, tu t'es rendu. Je vais prendre un service, par exemple, comme AMO. Donc c'est le truc des add-ons dont tu parlais tout à l'heure. Alors, la première version, elle a été faite YOLO par le gars, il savait pas ce que c'était que la montée en charge, il savait pas que c'était sur... La deuxième fois, quand on a atteint les limites de ce truc-là, on s'est assis à une table et on a dessiné et on a fait une chose correcte. Mais on n'a pas, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de prod, pré-prod, on a juste de la prod, tout ce qui est réseau, il n'y a pas de pré-prod, on n'a pas un mini réseau pour tester comment ça va tenir, parce que ça coûterait trop cher pour ce que ça rapporterait. Le retour sur investissement serait pourri d'avoir une mini architecture réseau pour faire des tests. On fait des tests en live. On se prépare avant, c'est tout. Voilà. Si ça pète, on fait un rollback et puis en avant.
D'accord. Est-ce que, puisque quand même Mozilla a une masse critique, il y a d'autres projets qui sont tout aussi importants, des projets open source avec des moyens qui sont existants mais relativement limités. Est-ce que des fois ça vous arrive qu'on vous demande un coup de main sur d'autres projets? Ou des fois des collaborations de Mozilla pour consolider, je sais pas, d'autres petits projets.
Alors, il y a un projet avec lequel on travaille, c'est Tor. Parce que Tor, ils utilisent notre base, ils utilisent nos produits, et puis ils rajoutent des choses par-dessus. Donc,
l'outil d'anonymisation de navigation.
Eux, ils viennent nous demander. Donc, à un moment, on s'était dit que c'était sympa d'avoir des relais Tor. Donc, on fait tourner des relais Tor chez nous. On n'a pas de point de sortie, on a juste des relais, mais on a des relais Tor chez nous. Je sais qu'on a donné...
On va rappeler aussi, puisque je sais c'est sulfureux tort et c'est utilisé par les salafistes. On va rappeler quand même que c'est financé pour les trois quarts par...
La NSA.
Par l'armée américaine. Voilà. Et que l'un des plus gros points de sortie... Il y a deux très gros points de sortie en France. Il y en a un chez État Neutral et il y en a un au ministère de l'Intérieur.
Les points de sortie, en fait, ils sont en France, ils sont chez online.net et chez OVH. Ah. Parce qu'on a de la, il y a de la bande passante unmetered. Donc ouais, on a fait des dons. Donc on a, par le passé, on avait donné de l'argent à OpenSSH parce qu'on utilisait OpenSSH comme des gorées qui s'en avaient besoin. Et là, il y a, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais on a un projet où on donne de l'argent à d'autres projets open source qu'on utilise. Donc il y a eu Discourse qui a eu de l'argent, et il y en a eu d'autres. Tout un tas de trucs où on donne de l'argent pour que ces projets qu'on utilise soient viables.
Mais est-ce qu'ils vous demandent un coup de main justement par votre expérience sur l'infrastructure et...
Non.
Non, jamais.
Non, pas pour ça.
D'accord.
Pas pour ça, parce qu'en fait, c'est une entreprise et c'est comme dans le monde du travail, quoi. La BNP, elle ne va pas demander à la Société Générale comment ils font, ou Delta, ils ne vont pas demander à KLM comment ils font.
D'accord, ok. Pour terminer, Ludovic, avant de reprendre, est-ce que justement il y a des opportunités et justement pour devenir administrateur système, quel est le meilleur moyen de progresser, d'apprendre et de progresser? Installer un vieil Apache et un WordPress chez soi, ouais, son serveur de MP3.
C'est le faire chez soi d'abord, puis ensuite devenir des trucs comme le Capital du Libre, FOSDEM. Et suivre les tracks pour apprendre et voir ce qui se fait en technologie de nos jours. Je crois que la meilleure, ouais, les trucs comme le Capital du Libre ou FOSDEM pour apprendre. Après une école d'informatique, ça aide beaucoup parce que ça donne un bon background sur comment ça marche les machines. Une fois qu'on a bien compris comment ça marche les machines, on peut comprendre le reste. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup DevOps. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'admin système, on fait du développement pour faire la maintenance d'un admin système, pour automatiser les choses. Vu la taille des systèmes de nos jours, je comprends. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, ben voilà, on avait une machine, on pouvait tout faire dessus, elle tenait la charge et tout. De nos jours, c'est impossible d'avoir un service qui... Ouais, sauf un petit blog, mais voilà. Dès qu'on a un peu de charge... Même pareil pour moi, je parlais pas de toi. Tu t'es senti visé. Je parlais pas de toi. Faut arrêter d'être paranoïaque, non mais...
On parle administrateur système, on est paranoïaque. Ludovic, merci beaucoup. Et un bon Capitole du Libre.
Merci, salut.
C'était CPU, le programme carré petit utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch, Chief CISOP Officer, et Enflammé, Chief User Officer. Et comme disait une copine, moi j'ai su tirer sur mon mec pour avoir les droits routes. Oui, ça fait rire derrière. La release a été shippée par les moyens techniques du Capitole du Libre, de l'Enset, de l'Onde Miroir, de Combustible et de Radio Éphémère. Merci à eux et merci au public présent. L'expliquerai la blague, l'expliquerai. L'intégralité du programme, ses extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter, partager et rajouter justement d'autres documentations. Et à part les musiques, tout est dans Creative Commons. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Ciao, bye bye. Non, parce que su, tu vois, ça veut dire que tu prends les droits administrateurs et su tirer, c'est que, voilà, quand tu es administrateur. Enfin, ça fait un jeu de mots aussi très amusant. Et je suis sûr que les mecs, le mec qui a écrit le programme su, il a mis ce petit jeu de mots exprès, tu vois. Et après, on dit qu'il y a trop de mecs.